13h-14h, Michel Cardoz, Histoire des Suds, sur Sud Radio.
Décembre 1851, de la Provence à la Gascogne et à la Nièvre, plus au nord, résistance et insurrection face au coup d'État de Louis-Napoléon. Nous sommes avec René Merle, historien, auteur de nombreuses études sur cet épisode peu connu de notre 19e siècle. On les trouve, ces études, sur son site rene-merle.com ou sur le site de l'association 1851.fr. Avec nous aussi, au cours de la semaine, nous serons avec Jean-Paul Damaggio, qui est historien pour d'autres aspects de cette résistance. Alors, nous commençons par les faits, car il faut les rappeler, René Merle. Les départements du Midi, entre le début décembre, le 2 décembre c'est le coup d'État, 3, 4, 5, 6, que se passe-t-il dans ces départements du Midi qui s'enflamment et défendent la constitution de la Deuxième République dont ils estiment qu'elle est violée?
Il se passe quelque chose de tout à fait inattendu, puisque nous sommes dans un régime démocratique depuis février 1848, c'est la Seconde République, pour la première fois. Le suffrage universel seulement masculin a été instauré, et donc nos départements du Midi, comme tous les départements de France, apprennent ce qu'est la démocratie. Et voilà que le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, élu très très largement à la fin de 1948, voilà que ce président, qui n'avait plus le droit de se représenter en 1852, commet un coup d'État, le 2 décembre.
Il n'avait plus le droit parce que deux mandats, ça suffit.
Deux mandats,
comme
terminé,
aux États-Unis.
Terminé. Et donc, c'est à la surprise générale, un ralliement des forces armées, un ralliement de la justice, un ralliement de l'administration à ce coup d'État. Et c'est là que un grand nombre de départements français, 33 à peu près, vont se rebeller, vont refuser, non pas au nom d'une quelconque révolution, mais au nom simplement du respect de la démocratie.
Et alors cette rébellion, ce refus va se manifester quoi? Par des cortèges, des prises de mairie, des...
Ce refus va se manifester par la prise de pouvoir municipal, essentiellement. Mmh. Le mot d'ordre des républicains était: demandez au maire, approuvez-vous ou n'approuvez-vous pas le coup d'État? Mmh. S'il l'approuve, on les enlève, on les remplace par une commission républicaine. Mm-hmm. S'ils n'approuvent pas, on les suit. Mais de toute façon, c'est la commune, la base de la démocratie, qui va refuser cette violation de la démocratie. Donc on désarme les gendarmes, on instaure une commune insurrectionnelle républicaine, et on attend que la France suive et fasse la même chose.
Et elle ne suivra pas, mais ça, c'est une autre histoire.
Elle ne suivra que dans 33 départements.
Alors, ces départements, ce sont ceux du Midi. En gros, ça va des Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes, oui, de Haute-Provence, le Var, les Bouches-du-Rhône, et puis jusqu'à l'ouest,
jusqu'aux frontières de l'Aquitaine, des Landes. Disons que les très gros départements insurgés furent les départements de l'actuelle région Provence, les départements de Midi-Pyrénées dans sa partie Lot-et-Garonne, Gers, et également une couronne nord du Massif central avec la Nièvre, Lyon et le Cher.
Voilà. Et le bilan de ces événements qui durent à peu près combien de jours? Entre le 3-4 décembre, après le coup d'État, le 2.
Tout est fini le 12 décembre.
Voilà.
Les derniers
10 jours.
Insurgés sont les courageux insurgés de Barcelonnette qui sont submergés par l'armée le 13 décembre. En gros, il y a eu, ce qui est énorme, il y a eu 100 000, on estime, d'après les statistiques de l'époque, que 100 000 citoyens ont pris les armes. Mmh. 100 000.
Et bon, ça, c'est les citoyens ont pris les armes. Il y a eu des morts, des arrestations, des déportations. On peut avoir une idée?
On a une idée très précise parce que la bureaucratie du Second Empire a été extrêmement nomenclaturiste là-dessus. Il y a eu presque 27 000 inculpations, donc beaucoup plus d'arrestations. Mais sur ces arrestations, 27 000 personnes ont été inculpées, jugées, et sur ces 27 000, 10 000 ont été déportées en Algérie. Et à peu près 200 ont été déportés à Cayenne. Les autres ont été répartis entre les prisons et les bagnes de France, où ont été expulsés du territoire. Ce qui est énorme pour la population de l'époque.
Et des morts, des victimes physiques.
Et des victimes physiques. Alors, il y a eu des dizaines de morts. Paradoxalement, on en parle beaucoup moins à Paris déjà, où l'armée a balayé les grands boulevards à coups de canon, où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Les morts se comptent par dizaines dans l'Hérault, dans la Drôme et dans le Var. Et ailleurs, ils se comptent, hélas, par victimes beaucoup moins nombreuses, mais il y a eu beaucoup de morts et d'innombrables blessés.
Pourquoi ce coup d'État est intervenu? Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que c'est parce que le président élu au suffrage universel n'avait pas la possibilité de prolonger au-delà de deux mandats. Il venait à expiration fin décembre 1851. Il voulait continuer. Bon, mais est-ce que c'est une raison suffisante, ça?
Non, certainement pas. De toute façon, la période est extrêmement complexe parce que cette République, née en février 1848, est née d'une insurrection parisienne qui n'a pas mobilisé la France. On peut dire que la République est tombée sur la province comme une surprise, divine surprise pour certains, curieuse surprise pour d'autres. Mais bref, tout le monde s'est retrouvé républicain. Or, ce suffrage universel qui a été pratiquement imposé par les révolutionnaires parisiens a en fait profité initialement aux forces conservatrices, pour employer la langue de bois, aux notables. Et donc on a eu une Assemblée nationale qui tirait vers ce que nous appellerions aujourd'hui la droite.
Si vous permettez, on va marquer une pause et on reprendra le récit de ces événements d'un passé tout proche dans quelques minutes. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851, de la Provence à la Gascogne, à la Nièvre, à Paris aussi. La résistance et l'insurrection face au coup d'État de Louis-Napoléon. Nous sommes avec René Merle, historien spécialiste de cet événement trop peu connu. Alors, René Merle, cette deuxième République née en 1848 était toute fraîche, toute jeune, toute frileuse, toute inquiétante pour les campagnes, nous avez-vous dit, toute enthousiaste et enthousiasmante dans les villes, et pourtant elle va très vite succomber.
Elle va très vite succomber parce que les espérances de février 1848 n'ont pas été réalisées. Les espérances ouvrières des grandes villes ont été écrasées par la violence en juin 1848. Les espérances paysannes se sont noyées dans des augmentations d'impôts énormes. C'est ce qu'on a appelé l'impôt des 45 centimes. 45 centimes sur un franc, ça fait beaucoup. Et donc, en décembre 1848, ce mécontentement ouvrier, surtout paysan, l'énorme majorité de la France à l'époque est paysanne et artisane, s'est reporté sur un candidat absolument inattendu.
Il y a donc eu des élections présidentielles, voilà, au suffrage universel.
Une nouveauté absolue. Il n'y avait jamais eu de président. Il y avait eu une république en France déjà, mais jamais de président de la République. Et donc cette élection a vu non pas le triomphe du candidat officiel républicain modéré et conservateur, mais le triomphe d'un aventurier politique qui jouissait d'un nom dont le prestige était évident, Napoléon, mais qui surfait sur ce mécontentement populaire.
Alors, dites-moi, les candidats, qui étaient-ils à cette élection
présidentielle? Alors, les candidats, bon, il y avait Cavaignac, le général Cavaignac, républicain de la veille, qui avait écrasé l'insurrection ouvrière de juin 48 à Paris, et qui correspondait aux aspirations des modérés, des républicains du centre, dirions-nous aujourd'hui, et d'une partie de la droite. Il y avait Lamartine,
le poète, le
chantre de la révolution humaniste de février. Il y avait Raspail, le candidat des premiers socialistes, le candidat de la République démocratique et sociale.
Presque que des boulevards, hein. Lamartine, Raspail, Cavaignac.
Et puis, lui n'est pas encore un boulevard, il y avait Louis-Napoléon Bonaparte, curieux personnage.
Alors, c'est le neveu, lui, hein.
C'est le neveu, c'est le fils de Louis. C'est un personnage qui ne pouvait qu'inquiéter les conservateurs dans la mesure où cet aventurier avait parcouru l'Europe et non pas la France, où il était interdit de séjour. Il avait été Carbonaro, il avait...
Carbonaro, c'est les révolutionnaires italiens.
Voilà, qui avait des ramifications en France. Mmh. Il avait écrit un opuscule pour souhaiter l'extension du paupérisme. Et donc, il apparaissait comme un personnage quelque peu gauchiste, dirions-nous,
aujourd'hui. Il avait été emprisonné.
Il avait fait un séjour prolongé au fort de Ham, en France, après une tentative de débarquement et de prise de pouvoir ratée. Il s'en était évadé, et donc il jouissait d'un certain prestige également auprès des révolutionnaires, parce que c'était un homme d'action, et pas seulement un homme de parole.
C'était un homme d'action, il s'était évadé, il avait essayé de débarquer, il avait écrit un livre, L'extinction du paupérisme, que d'aucuns railleront en disant l'extinction du paupérisme après 5 heures du soir.
Enfin, il l'avait quand même écrit, et il en jouissait.
Est-ce qu'on peut dire qu'il était socialiste, ou en tant qu'il sentait le socialisme? Un peu.
Le mot socialiste est un mot que l'on met à toutes les sauces à l'époque. Les archives policières distinguent les communistes, qui sont les partisans utopistes de Cabet, d'un communisme qui ne voit son avenir que dans la fuite aux États-Unis, la constitution de communautés icariennes, et puis le socialisme, qui était une sorte de conciliation entre les classes et qui aurait abouti à l'extinction du paupérisme. En ce sens, Louis-Napoléon est socialiste.
Et alors, il se présente aux élections avec son nom, Bonaparte.
Voilà, Bonaparte.
Donc, tout le monde sait qu'il est le neveu, pas toujours clair parce que sa parentèle...
Bon, mais il se présente aux élections et il est élu sur son nom et également sur cette revanche paysanne et artisane des petits qui s'estiment frustrés par cette république de notables. Donc, il est l'élu du peuple.
Alors, vous dites, il est l'élu du peuple. Il a une image, disons, populaire, presque socialiste, il s'occupe des pauvres, etc. Et en même temps, il a des amis qui ne sont pas spécialement
Et en même temps, il a des amis. C'est un peu l'épisode du général Boulanger, et éventuellement plus tard du général de Gaulle. C'est un homme qui avait des réseaux, et des réseaux extrêmement efficients. Donc, une partie de la droite conservatrice de l'époque considère que cet homme que ces gens-là estimaient comme un pauvre homme, un homme manœuvrable...
Un peu nié.
Cet homme était le meilleur à mettre en place pour mener une politique conservatrice, en dépit... de ses proclamations.
On le considérait donc comme un peu faible, comme un peu niais. Peut-être que c'est son regard, ses yeux, que les images rendent un peu vides, qui font que les industriels, les banquiers du temps, pensent qu'on va pouvoir en faire ce qu'on veut, c'est ça ?
Son physique n'était pas celui d'un dandy. Ses yeux n'étaient pas celui d'une limpidité administrative. Et donc, effectivement, le personnage apparaissait falot. Il ne l'était pas.
Et il est élu triomphalement.
Triomphalement, il a plus de 70% des voix. Il n'y a que quelques départements qui ont voté pour le candidat officiel. Donc c'est un véritable raz-de-marée. Et d'ailleurs, la plupart des départements qui se sont insurgés en décembre 51 avaient voté triomphalement pour Louis-Napoléon.
C'est-à-dire que 2 ans avant, les mêmes qui s'insurgeront après le coup d'État avaient soutenu l'accession au pouvoir de ce garçon.
Sauf les Bouches-du-Rhône et le Var qui avaient déjà voté pour le candidat républicain officiel, et puis le Morbihan qui avait voté pour le conservateur. Voilà.
On va marquer une pause, René Merle. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851. L'insurrection éclate de la Provence à la Gascogne contre le coup d'État perpétré le 2 décembre 1851 par Louis-Napoléon, qui pourtant, quelques 2 ans auparavant, a été élu triomphalement président de la République au suffrage universel. Mais il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Et René Merle, notre invité, notre historien spécialiste de cette question, nous explique que l'ensemble des départements qui vont s'insurger tout de suite après le 2 décembre avaient pourtant voté pour ce candidat qui était à la fois rassurant, qui avait l'image d'un niais, d'un homme manœuvrable, mais qui avait aussi l'image d'un homme, on dirait aujourd'hui, d'un homme de gauche, près du peuple. Il avait écrit pour l'extinction du paupérisme, il avait fait de la prison, enfin bref, il avait une bonne image de gauche, et puis le voilà, qui est entouré d'amis. Quels sont ses amis ?
Alors, ses amis, c'est un réseau extrêmement personnel et camarilliste, pouvons dire, qui s'appuie sur trois piliers. D'une part, l'armée d'Algérie. Ce sont des gens qui ont fait leur preuve dans cette triste guérilla qui a, pendant 10 ans, ravagé l'Algérie. Et Bonaparte fait revenir Saint-Arnaud, général d'Algérie, afin de préparer les forces armées à ce triste rôle du 2 décembre. Il y a Morny, son demi-frère, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un conseiller de l'Élysée, et non pas du tout un ministre, mais qui tient les véritables réseaux d'influence. Et puis, il y a ces contacts discrets, ces contacts jésuitiques, pourrais-je dire, avec la droite classique qui anime l'Assemblée nationale, avec laquelle le président n'est pas toujours d'accord, loin de là. Et à partir de ces trois données, celui que l'on présentait comme un imbécile va mijoter quelque chose qui va parfaitement réussir dans la nuit du 2 décembre.
Alors, vous venez de faire allusion à l'Assemblée nationale. Elle aussi, elle a été élue au suffrage universel.
Absolument.
Et pourtant, elle se heurte à ce président, lui aussi, élu au suffrage universel.
Oui, parce que c'était une assemblée conservatrice, une assemblée de droite, dirions-nous aujourd'hui, qui pensait pouvoir perpétuer cette coexistence avec une présidence. Bon, elle n'envisageait pas, évidemment, Louis-Napoléon. C'était une assemblée qui, comme elle se proclamait elle-même, était l'émanation du parti de l'ordre. C'est-à-dire un parti de notables, un parti de propriétaires, un parti qui devait gérer la France comme les propriétaires gèrent leur fortune.
Qui étaient les élus de cette assemblée ? Par exemple, dans un département que vous connaissez comme le Var, ou
d'autres ? C'était de grands notables, des propriétaires terriens, ou alors des avocats, mais qui étaient, des sujets de ces...
Des hommes de pouvoir.
De ces hommes de pouvoir. Et ces gens-là avaient, en fait, été les suppôts de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de la monarchie bourgeoise.
Du règne de Louis-Philippe.
Du règne de Louis-Philippe, qui avait succédé à une monarchie beaucoup plus conservatrice et légitimiste des années 1815-1830.
Qui elle-même avait succédé au premier empire.
Exactement.
Où régnait l'oncle de Louis-Napoléon. Voilà. Alors, on a parlé de l'Assemblée nationale. Il y a un homme dont on n'a pas parlé, qui était élu, c'est Victor Hugo, qui va jouer un rôle à la fois peut-être un peu anecdotique au moment du coup d'État, mais qui va jouer un grand rôle après, en publiant, en s'exilant d'abord, et en publiant un pamphlet et un livre de poèmes terrible qui a immortalisé et gravé pour quasiment l'éternité une image très négative et de Louis-Napoléon et du Second Empire. C'est Victor Hugo avec ses deux livres, Histoire d'un crime et Les Châtiments. Voilà. Alors, il est élu à l'Assemblée.
Victor Hugo, contrairement à l'image populaire qui dit toujours « sont comme les radis, commencent sont rouges et finissent sont blancs ».
Vous traduisez là. Hein.
Lui, il a commencé blanc puisqu'il a été royaliste et élu royaliste, et il a fini rouge au sens de l'époque, c'est-à-dire républicain avancé. Et donc Victor Hugo, à travers la très brève secousse de la Seconde République, enfin c'est 3 ans et demi, 4 ans,
très peu,
a découvert le peuple, a découvert la réalité de la démocratie et a découvert la réalité de la résistance. Et donc ce grand père de France est devenu, sur la fin de la République, un des chantres de ce parti qu'on appelait les démocrates socialistes et que le peuple appelait les rouges par opposition aux blancs, c'est-à-dire aux conservateurs. Et Victor Hugo est donc, pour moi en tout cas, le symbole d'une conscientisation politique extrêmement réussi.
Alors, le 2 décembre, il réagit de manière radicale.
Il est viré, on ne peut pas dire autrement. Il est expulsé manu militari
de l'Assemblée nationale
et du territoire français. Il se retrouve en Belgique, sans un sou, et bon, il va réaliser ce que la répression signifie. Mmh. Il en sera d'autant plus sensible à ceux qui restent couchés sur le pavé parisien, couchés par la mitraille. Mmh. Et donc, c'est un autre Victor Hugo qui apparaît à ce moment-là. Mmh. Et c'est l'homme de la revanche, non pas par les faits, mais par les mots. Mmh. Et ces mots porteront peut-être beaucoup plus. C'est l'homme qui va avilir, au bon sens du mot, le Second Empire.
Ça, c'est une vraie question d'image, parce que on en reparlera tout à l'heure, mais il y a constamment des essais de réhabilitation du Second Empire par rapport à Victor Hugo qui l'a avili. Bon, est-ce que Louis-Napoléon voulait devenir empereur, comme son oncle, ou bien être réélu après deux mandats, il voulait rester au pouvoir sous la forme républicaine, ou bien il voulait refonder l'Empire, comme il l'a fait, finalement. Est-ce que...
Il ne s'en est jamais expliqué, donc il est difficile de parler à sa place. Mmh. Et puis, il est toujours difficile de déterminer quelles sont les motivations des êtres humains. Donc, chacun sait qu'ils sont complexes et tortueux. Mmh. Ce qui apparaît, c'est qu'il a goûté au pouvoir. Mmh. Ce pouvoir qui, pour lui, avait été quand même, à travers ses conspirations successives, un but. Mmh. Ce pouvoir, il en avait joui. Mmh. Et d'autre part, il n'avait probablement pas supporté les avanies dont le gratifiaient ses conservateurs, qui le traitaient comme un couillon, il n'y a pas d'autre mot. Et je pense qu'il voulait rester. Est-ce qu'il voulait rester comme empereur ou comme président? Il le voulait.
On va en reparler après une pause. Histoire des Suds, nous sommes en 1851 au mois de décembre. Le coup d'état de Louis-Napoléon et de ses amis, Morny, Saint-Arnaud, le général revenu d'Algérie en vitesse après ses 10 ans de guerre, comme nous l'explique notre invité René Merle, ce coup d'état réussit, mais dans les départements du Midi, l'insurrection éclate. C'est la résistance qui s'organise. Pour une dizaine de jours, nous savons qu'au bout de 10 jours, cette insurrection, cette révolte, ce refus du coup d'État va échouer. Alors, on peut se poser la question de savoir la question du pourquoi de ce coup d'État. On a interrogé il y a un instant les raisons, au fond, personnelles de Louis-Napoléon, le neveu du grand Napoléon. Le petit Napoléon, Napoléon le Petit, comme l'appellera notre ami Victor Hugo. Mais peut-être que, je ne sais pas moi, les élites, les couches dirigeantes avaient des désirs. Est-ce que les élites de l'époque avaient besoin d'un régime stable auquel a ressemblé, ça nous pouvons le dire après, ce Second Empire?
Certes. La clé de l'histoire, c'est le suffrage universel masculin. Mm-hmm. Ce suffrage qui avait été instauré par surprise par les révolutionnaires parisiens, a en fait servi les notables, nous l'avons dit. Mmh. Et ces notables avaient compris, et c'est la première grande leçon de la démocratie politique, que ce qui importait, ce n'était pas la trique, c'était la colonisation des cerveaux, c'était de gagner la conscience des électeurs. Et donc, cette conscience s'est portée à travers les prêtres, à travers les notaires, à travers les nobles, etc. Provinciaux s'est portée vers la République conservatrice. Or, le courant démocrate socialiste, c'est-à-dire les républicains avancés, qui s'organisent après cette énorme surprise du coup de l'élection de Louis-Napoléon, ce courant très rapidement va s'enraciner dans les villes et dans les campagnes de province et va électoralement faire des progrès remarquables et gagner la majorité dans une trentaine de départements. À ce moment-là, la République conservatrice, le Parti de l'Ordre, ampute le suffrage universel masculin. Tout ce qui est pauvre, qui ne paie pas d'impôts, qui n'est pas lettré suffisamment, ne peut plus voter. Un tiers des électeurs sont privés du droit de vote. Mais malgré cela, aux élections partielles, on voit le courant rouge se renforcer et gagner. Mmh. Et donc, l'échéance des élections de 1852 posait question, qui va l'emporter? Et donc, ce que chantaient les chansonniers populaires, c'est « Espérant 52 ». 52 leur apparaissait comme l'année de la victoire.
Nous attendons et nous espérons 52. Voilà.
Et il est évident que le courant conservateur souhaitait briser cette montée du courant républicain avancé. soit par un coup d'État, soit par une amplification de la répression qui s'est exercée tous azimuts sur les colporteurs, sur les journaux, sur les réunions publiques, etc., etc. Les vagues d'arrestations ont commencé bien avant le coup d'État.
Alors, vous nous décrivez un climat politique. Aujourd'hui, on a envie, à tort ou à raison, de réfléchir un petit peu plus au fond. C'est l'époque, mais ça on le sait a posteriori d'aujourd'hui, c'est l'époque où le capitalisme français, la grande industrie, explose. On va construire des chemins de fer, on va produire de l'acier, on va relier Paris avec la province, etc., etc. Est-ce que ce capitalisme en pleine expansion, avec un taux de croissance, comme on dirait aujourd'hui, à deux chiffres, a besoin de ce régime qui n'est pas la trique, mais qui est la conscientisation, comme vous dites, c'est-à-dire la conviction, et que pour ça, il faut rassembler, et que rassembler, ça passe par un coup d'État.
Il en avait certainement besoin, mais il avait déjà eu ces données-là sous la monarchie de Juillet. Il aurait parfaitement pu les avoir sous une république conservatrice. Ce serait vraiment être manichéen que de décréter que le capitalisme, d'ailleurs, que peut signifier le capitalisme stricto sensu, que les capitalistes de l'époque aient souhaité financer un coup d'État. Mais ce qui est certain, c'est que dans la conjoncture de la fin de l'année 51, avec cette inquiétude sur la montée du péril rouge, d'une façon ou d'une autre, les milieux d'affaires souhaitaient un régime autoritaire et stable. Voilà.
Et ils l'ont eu avec
ils l'ont eu avec ce coup d'État.
Alors, ce coup d'État a été préparé de manière clandestine, complotée.
Un véritable complot. Il a été organisé. Il n'a rien de spontané.
C'est-à-dire, alors, vous nous avez évoqué le retour précipité du maréchal, du général. Il n'est pas encore maréchal.
Il faut être sûr, d'une part, que l'armée suivra. Puisque c'est le bras armé du coup d'État. Il faut être sûr que la justice suivra. Il faut être sûr que l'administration suivra. À partir de ce moment-là, on peut y aller.
Comment s'assure-t-on alors des préfets, des généraux et des juges et des procureurs?
Eh bien, on s'en assure par cette infinité de contacts, cette capillarité que je décrivais précédemment, qui fait que on peut penser, d'une certaine façon, au 13 mai 1958, à quelque chose qui va se cristalliser dans le coup d'État, mais qui était déjà latent, et qui fait que, d'ailleurs, on en reparlera, une partie des républicains, sentant venir la chose, s'était préparé à une résistance armée.
Vraiment, à une résistance armée.
Véritablement.
C'est une résistance armée, y compris à Paris, y compris dans
tous
les...
Partout.
C'est-à-dire, ils avaient accumulé des armes, ils avaient...
C'est-à-dire, ils se sont posé le problème que se pose tout parti d'opposition, lorsqu'ils se heurtent à une répression de plus en plus dure, à quel moment faut-il quitter tout en maintenant son activité dans la démocratie, aussi restreinte qu'elle soit dans la démocratie, mais à quel moment faut-il envisager une action clandestine permettant de résister?
Nous arrivons au terme de ce premier jour de récit sur 1851, au mois de décembre, la résistance et la révolte contre le coup d'État de Louis-Napoléon et de ses amis. On se retrouve demain avec notre invité, René Merle.